Je vous remercie à tous d'être là. Je vais me présenter brièvement pour commencer. Je m'appelle Christophe Alliot. Je suis bénévole et membre de l'association Ingénieurs sans frontières depuis 15 ans. Ancien président de la fédération, administrateur pendant une dizaine d'années et toujours bénévole dans cette structure qui va fêter ses 30 ans l'an prochain. Et à côté de ça, mon activité professionnelle est en rapport avec les producteurs de commerce équitable sur les différents continents. Voilà pour faire rapidement. Et je suis ingénieur de formation, comme un certain nombre de personnes dans cette salle, mais qui sont à cette table que je présenterai tout à l'heure et un petit peu peut-être dans la salle aussi. Nous allons voir. Donc je vous remercie à tous d'être là cet après-midi. Je vous propose de faire une brève, rapide introduction de tout le monde ici à la table ronde qui est très rectiligne, hélas, pour que tout le monde puisse se connaître. Et puis après, je vais reprendre la main pour vous exposer un peu le déroulé de cette deuxième partie d'après-midi. Je ne sais pas si vous voulez démarrer. Je vais vous passer mon micro, ce sera plus facile.
Merci. Comme je suis à l'extrémité de la table, je vais bien commencer. Donc, Irina Guzevic, historienne, membre de l'équipe pro du centre Maurice Albax de l'école des hautes études en sciences sociales. Donc, mes recherches depuis plusieurs années, ben évidemment, ils ont évolué, mais le grand axe est resté le même. C'est l'histoire des ingénieurs à travers le temps. Donc, c'est une approche historique. Même si j'ai côtoyé pendant toutes ces années les sociologues et, auxquels je porte une vénération, mais j'approche quand même mes méthodes d'historienne. L'histoire des ingénieurs, mais la circulation de ces experts, parce que l'ingénierie moderne, pour moi, est née de la circulation des savoirs, de la mobilité des experts, de ce mouvement brownien qui envahit l'Europe tout entière à partir du 19e siècle, pour ne pas remonter jusqu'à la Renaissance. Voilà, la circulation des savoirs et la construction du métier et de l'identité professionnelle des ingénieurs dans tous leurs états.
Merci.
Merci. Je vais me présenter brièvement. Je suis Mathilde Lagrola, élève en deuxième année en école d'ingénieur en agronomie, donc AgroParisTech. Je suis membre d'Ingénieurs sans frontières depuis l'année dernière et j'ai donc eu l'occasion de travailler avec un certain nombre de mes camarades à l'organisation de ce colloque et à la réflexion.
Voilà, donc j'ai le même profil que Mathilde. Je suis en deuxième année aussi à AgroParisTech en agronomie. Je fais aussi partie d'Ingénieurs sans frontières. Donc moi, c'est Amélie Dupendant. Et donc voilà, on a collaboré ensemble à l'organisation de ce colloque.
Merci. François Vatin, je suis professeur de sociologie à l'Université de Paris-Ouest. Je fais de la sociologie du travail, de la sociologie économique. Je suis membre d'une équipe de recherche qui s'appelle l'IDHE, Institution dynamique historique de l'économie, qui regroupe à la fois des historiens et des sociologues, pour l'essentiel. Sur la question des ingénieurs, ça fait très longtemps que je m'intéresse à la pensée d'ingénieurs sous différents registres. Hein. Je me suis intéressé à la pensée des ingénieurs organisateurs, mais je me suis aussi intéressé beaucoup à, je dirais, la pensée techno-économique des ingénieurs depuis la fin du XVIIIe siècle, à la fois sur les questions mécaniques, mais également l'histoire de l'agronomie en particulier. Et du point de vue qui, je pense, j'ai cru comprendre que ça ferait partie des choses qui sont discutées ici aussi, j'ai une expérience de coopération avec les ingénieurs agronomes sur un tout autre terrain qui sont les questions laitières en Afrique de l'Ouest. Et donc, je crois que ça fait partie des choses dont on pourra discuter sur les relations entre les sciences sociales et les sciences de l'ingénieur. Donc, j'ai une expérience pratique de collaboration de ce point de vue-là. Et puis, alors, peut-être, dernier point que j'avais évoqué rapidement dans le débat d'hier, hein, vous m'excusez, aujourd'hui je n'ai pas pu venir, j'avais mon propre séminaire à Nanterre. Je me suis beaucoup occupé ces derniers temps, je dirais du point de vue de la construction de données, mais aussi de l'intervention dans le débat social, des problèmes universitaires, des problèmes notamment de la concurrence entre l'université et le système des écoles dans le cadre de l'organisation du système universitaire français, et ça fait peut-être partie aussi de ce qui reviendra d'une certaine manière dans la discussion.
Claude Dubard, je suis retraité, professeur émérite de sociologie à l'université de Versailles, Versailles-Saint-Quentin. J'ai fondé avec quelques-uns de mes collègues un laboratoire qui s'appelle Printemps, profession, institution et temporalité. Et donc, ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis particulièrement intéressé à la fois dans mes recherches empiriques et dans mes lectures et mes théorisations par la question des professions, de la sociologie des professions. Sur les ingénieurs, j'ai travaillé quand j'étais au CEREC, avant d'être à Saint-Quentin, Versailles-Saint-Quentin, sur les programmes de devenir ingénieur par la formation continue, avec Charles Gadea, on a publié un certain nombre de choses là-dessus, suivant des cohortes, et on a aussi un peu travaillé sur la formation continue des ingénieurs, ce qui est un autre problème, mais qui, dans les deux cas, rejoint la question des trajectoires, et en particulier des différenciations de trajectoires selon les genres, selon les origines, selon les écoles, selon etc. Et j'ai eu une expérience très intéressante concernant les ingénieurs en étant membre et ensuite vice-président du conseil scientifique de l'ENESAD, que vous connaissez certainement, donc les ingénieurs agronomes de Dijon, où il y a une forte composante socio-économique, où il y a même un laboratoire de socio-économie tout à fait vivant et producteur. Et on a beaucoup discuté, innové même, sur la question de la place des sciences sociales, des sciences économiques et sociales dans la formation des ingénieurs agronomes à Dijon. Je pense que l'expérience telle qu'elle s'est déroulée, qu'elle se déroule encore, d'une introduction importante de socio-économie par la recherche dans la formation des ingénieurs agronomes est quelque chose de très important.
Catherine Marie, je suis sociologue au CMH, au Centre Maurice-Alvax. On est déjà trois, je crois, du Centre Maurice-Alvax, parce que les doctorants qui organisent le colloque le sont. J'ai commencé mes recherches au début sur les femmes qui entraient dans des métiers d'hommes, plutôt des métiers techniques, les techniciennes de la mécanique, des BTS, des DUT. Et puis, quand je suis venue à Paris en 86, j'ai rencontré André Rollon, qui dirigeait cette fameuse recherche dont on a parlé tout à l'heure sur les ingénieurs du Nord-Pas-de-Calais, les écoles et les carrières de plusieurs générations. Et il m'a proposé donc de travailler sur les femmes ingénieures. C'était un sujet à l'époque qu'on considérait comme une non-question. La première fois, je ne dirais pas qui, une grande sociologue, m'a dit c'est une non-question. Voilà. Personne, ça n'intéressait absolument personne. Et petit à petit, c'est devenu, il y a eu des lobbies. Maintenant, on ne parle plus que de ça. On m'invite dans tous les colloques, au point que j'en ai un petit peu assez. Les ingénieurs m'intéressent toujours, mais je travaille aussi sur d'autres sujets. Aujourd'hui, sur plutôt les enseignants du supérieur, les carrières dans la fonction publique avec Sophie Pochic, etc. Cela dit, je continue quand même à m'intéresser aux femmes ingénieures, en comparaison avec les hommes, bien sûr. Voilà.
André Grelon, je suis sociologue, enseignant à l'École des hautes études en sciences sociales, et je suis membre du Centre Maurice-Alvax dans l'équipe Pro, Profession, Réseau, Organisation. Et mes travaux portent sur l'histoire et la sociologie des professions techniques, notamment des ingénieurs.
Merci beaucoup à tous. Alors, ce que je voulais vous dire d'abord, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose d'extrêmement interactif. On a une grosse heure et demie ensemble à passer. Avant d'introduire un petit peu le programme de l'après-midi, peut-être juste deux mots d'introduction sur pourquoi ce colloque et ce temps est important pour la Fédération Ingénieurs sans frontières, pour cette organisation qui a 30 ans. Important parce que je pense que ce pont entre le monde académique et le monde de la recherche et surtout des sciences sociales est justement un réseau militant d'ingénieurs, plutôt de jeunes ingénieurs encore en cours de formation, garçons et filles, est véritablement important pour justement questionner, faire un effet de miroir entre un petit peu les chercheurs et puis l'objet de la recherche qui est réuni dans la même salle pour une fois. C'est important dans l'histoire d'ISF parce que, pour apporter une petite pierre aussi de savoir d'où on parle, cette question elle s'est formalisée qu'à la fin des années 90 pour l'association, mais elle est vraiment venue de l'expérience de terrain. C'est parce que des jeunes sont partis sur le terrain, qu'ils ont confronté pour eux, et je pense que c'est un vécu commun à tous les membres de l'association, la différence qu'il y avait entre les convictions, enfin entre la conviction de savoir facilement quelle solution il fallait mettre en œuvre et le fait que quand on part dans un certain nombre de pays d'Afrique, d'Amérique latine ou d'Asie, ces solutions ne sont soit pas applicables, soit totalement caduques, soit fortement à remettre en cause, et en tous les cas en interaction avec les populations. Qu'on ne peut pas venir impunément comme ça de l'extérieur pour bouleverser un existant. Et c'est de là qu'est vraiment venu et a surgi ce questionnement d'éthique qui s'est formalisé par la suite. Et je pense qu'il a pris une toute autre dimension depuis un peu plus d'une dizaine d'années, avec une véritable volonté de la Fédération, qui s'est retranscrite dans sa charte actuelle, d'aller au-delà justement d'une première époque d'où vient le nom Ingénieurs sans frontières, et qui était cet engagement à aller au sud, à travailler avec les populations, vers la prise de conscience et l'affirmation pour une association comme celle-là d'être avant tout un réseau d'ingénieurs militants qui questionnent la technique, qui la remettent en cause autant que nécessaire et qui, je pense, voient leur métier et leur engagement comme étant ceux qui sont en un trait d'union entre la science, la technique et la société et les citoyens, avec tout ce que ça veut dire en termes de responsabilité, d'aider les citoyens et la société à faire des choix, à voir clair dans les différents risques et les opportunités auxquelles il fait face, et en quoi est-ce que la technique peut aider ou au contraire peut venir noircir le tableau, et en quoi la technique est absolument pas neutre et il faut pouvoir prendre des choix éclairés là-dedans, avec vraiment un rôle particulier pour les ingénieurs. Ceci étant dit, ce questionnement va se faire juste en interne, en se regardant autour du nombril, d'où l'importance, je pense, pour Ingénieurs sans frontières, de ce colloque et de ce temps, cette opportunité de croisement de regards, en fait, qui est l'objet de cet après-midi. Pour pouvoir tirer le fil de ces discussions, on vous propose trois temps, on va faire trois grandes demi-heures ensemble. Une première demi-heure sur le cadre de pensée de l'ingénieur, une deuxième sur, dans la pratique, mettre en œuvre la responsabilité d'ingénieur, qu'est-ce que ça veut dire en tant que corps professionnel, en tant qu'individu. Et puis la troisième partie, venir éclairer un peu ce que ça veut dire pour la formation. Et en ça, on pourra peut-être reboucler sur le cadre de pensée, puisque bien sûr la formation en est le principal véhicule, mais en quoi est-ce que le contexte actuel et les contradictions auxquelles on fait face viennent potentiellement éclairer d'un nouveau jour ou pas, ou remettre en cause ou pas le cursus de l'ingénieur. Le plus important, je pense, dans tout ça, c'est que les sciences sociales, la sociologie et l'histoire soient vraiment notre fil conducteur tout du long, soient vraiment la partie transverse, en se posant la question de savoir si ces questionnements d'aujourd'hui qui vont vous être livrés, ce qu'on propose, c'est qu'à chaque demi-heure, on commence juste par 2 minutes de questionnements qui vont nous être donnés par mes deux camarades jeunes ingénieurs agro, et pour proposer un petit peu leur vue aujourd'hui dans le contexte actuel, mais justement en quoi est-ce que les sciences sociales viennent éclairer ça d'un autre jour, en quoi est-ce que l'histoire nous dit que c'est pas forcément des questionnements nouveaux ou alors qu'ils sont posés mais peut-être un peu différemment, en quoi la sociologie vient nous éclairer par rapport à ça et remettre dans un contexte peut-être plus large et voir des tendances de fond, voir un certain nombre de choses. Et je vais essayer de veiller, donc rappelez-moi à l'ordre en levant la main si vous le voulez bien, à faire en sorte que ce soit interactif. Donc est-ce que vraiment à chaque demi-heure on ouvre vraiment une séance de questions-réponses avec la salle. Donc un premier exposé de 2 minutes. Je laisserai la parole à tous ceux qui veulent s'exprimer d'abord du côté de la table ronde rectiligne, et puis après de pouvoir faire des échanges avec la salle sur chacun des thèmes. Donc pour lancer le premier, je ne sais pas si c'est Amélie ou voilà.
Donc tout d'abord ce questionnement sur l'ingénieur citoyen, les différentes questions qu'on va pouvoir poser avec Mathilde sur ces différentes thématiques, donc sont issues en fait d'une petite enquête qu'on a réalisée à AgroParisTech auprès des ingénieurs qui sont en deuxième année avec nous. Donc bon, on a reçu peu de réponses, on peut le dire. Ça montre peut-être que finalement, quand on est en formation, on se questionne peut-être pas encore beaucoup parce que justement, on n'a pas encore été sur le terrain. Et donc voilà, on va essayer de vous présenter ces différentes questions, donc toujours avec le fil directeur, qui sera donc dans le cadre finalement du développement durable. On a la sensation que peut-être notre métier est amené à changer. Et donc on se demande justement si le passé peut nous éclairer sur le présent. Donc à savoir si déjà l'ingénieur a pu subir des transformations de son métier dans le passé, et aussi pouvoir mettre en parallèle différents pays, vu qu'on a des intervenants qui viennent à la fois de France et de d'autres pays du monde. Donc maintenant, je vais laisser Mathilde présenter la première partie.
Donc en ce qui concerne le cadre de pensée de l'ingénieur, il s'est posé à nous deux questions. Tout d'abord, la question de l'objectivité et la rigueur scientifique, ce sont des choses qui nous sont présentées comme étant des qualités inhérentes de notre formation et puis plus tard de la profession. Mais on se demande si des fois ces qualités ne cachent pas certains présupposés ou certains cadres de pensée, donc les valeurs de productivité, de rentabilité, donc héritées d'un certain modèle. Et on se demande comment donc ces présupposés se sont imposés et surtout comment peut-on être capable de les reconnaître pour les accepter ou les remettre en cause une fois qu'on les a identifiés. D'autre part, une question un peu plus polémique est celle de, à travers le changement qu'on peut envisager peut-être de modèle de production face aux enjeux donc de développement durable, est-ce que le métier qui ces dernières années se qualifiait surtout par sa recherche de productivité et d'augmentation de la production et donc de croissance, ne va pas être profondément remise en cause dans ces objectifs recherchés? Et est-ce que des valeurs pourraient se substituer des objectifs dans le métier lui-même? Donc ces deux questions sont lancées pour ouvrir le débat.
Et je crois que même le mot polémique que vous utilisiez du coup comme questionnement, c'est est-ce que c'est un cadre de pensée ou est-ce que c'est une cage idéologique dont on parle, histoire de mettre les mots sur la table. Alors, qu'est-ce qui veut prendre cette balle au bond? Elle est déjà bien... Je vous en prie, allez-y.
Non, assez volontiers, parce que d'une certaine manière, ça correspond très directement à la façon dont j'ai essayé de penser la pensée d'ingénieur. C'est-à-dire l'idée que, de façon générale, tout principe technique a une base économique. Donc, quand vous dites, finalement, cette question productivité, rentabilité, ce sont une espèce de présupposé idéologique qui entraverait l'objectivité scientifique de l'ingénieur, je ne pense pas que ce soit comme ça qu'il faille poser le problème. Par définition, la science de l'ingénieur, c'est une science pour l'action, qui, donc, intègre des critères de valeur. Le problème, c'est de savoir effectivement quels sont ces critères de valeur. Mais une fois qu'on a pensé ces critères de valeur, on est dans une logique d'efficience, hein, et cette logique d'efficience, elle a toujours une dimension économique. Alors après, il y a plusieurs... Hein, la réflexion qui doit être menée, si vous voulez, c'est sur la nature de la norme économique. Mais c'est pas sur l'idée qu'on pourrait avoir une pensée d'ingénieur qui serait dissociée de la norme économique. Hein. Et on peut montrer ça, ça c'est les travaux effectivement que j'ai faits, aussi bien sur l'histoire de la pensée en mécanique que sur l'histoire de la pensée agronomique, qui est construite toujours autour de... C'était un point qu'évoquait dans son exposé Alexandre Abidet hier, qui s'appuyait un peu sur mes travaux en la matière, sur la figure du ratio, hein, c'est-à-dire on a un numérateur, on a un dénominateur. Qu'est-ce qu'on met au numérateur? Qu'est-ce qu'on met au dénominateur? Et ça, c'est pas fixé. Et c'est ça qui est très intéressant, justement, de mon point de vue dans la pensée d'ingénieur, c'est que on peut réfléchir à savoir qu'est-ce qui est mis à un moment donné au numérateur, au dénominateur, qu'est-ce qui est considéré comme une valeur, qu'est-ce qui est considéré comme un coût, et c'est autour de ça qu'on peut réfléchir aux cadres sociaux qui sont derrière le calcul des ingénieurs. Mais l'idée qu'on pourrait avoir une pensée d'ingénieur qui serait dissociée de ça, eh bien là, pour le coup, effectivement, ça serait tombé dans le scientisme qui ignorerait la façon dont le savoir d'ingénieur est construit pour l'action. Je ne sais pas si j'ai été clair dans ma réponse.
Qu'est-ce qui veut... Oui, alors est-ce que...
Oui, je partage évidemment tout ce que vient de dire François, mais j'ajouterai normes économiques et sociales, parce que je vais vous donner une anecdote personnelle qui a quand même compté pas mal dans ma vie. J'ai un frère polytechnicien qui a fait d'abord les poudres, qui a fait une thèse de chimie sur l'acétylène et qui ensuite a pantouflé et est devenu responsable de la recherche dans une des filiales de Rhône-Poulenc. Et nous avons eu un certain nombre de débats ensemble, évidemment, hein, dans notre vie. Et je me souviens d'un débat particulièrement vif où, parlant de la sociologie comme science humaine, il a dit « science humaine, c'est une contradiction dans les termes ». Bon, et j'ai évidemment rattaché ça à un certain nombre de ses discours précédents ou à de ses positions constantes. Je crois qu'effectivement, il y a dans l'idéologie spontanée d'un certain nombre d'ingénieurs. Encore une fois, je ne pense pas que mon frère soit plus représentatif qu'un autre des ingénieurs, mais l'idée aussi d'une norme sociale de hiérarchie, supériorité, domination, enfin je ne sais pas quels sont les meilleurs termes, mais une forte conscience de faire partie de l'élite sociale et d'avoir quelque part, je veux dire, la vérité, non seulement la vérité scientifique et technique, mais la vérité socio-idéologique et qui va avec. Et bon, ayant été à Polytechnique dans les années 50, 56-57, étant d'origine populaire, comme moi, évidemment, il a manifestement, j'allais dire, ingurgité avec ses études scientifiques et techniques. Il avait, parce que malheureusement, le pauvre est décédé il y a 4 ans, il avait ingurgité avec ses études scientifiques et techniques, j'avais toute une idéologie de l'aristocratie, du savoir de l'aristocratie sociale, qui se traduisait par une certaine forme de mépris à l'égard et de notre sœur commune qui était institutrice, et institutrice était évidemment le bas du panier, comme on dirait, des professions, et de moi-même qui était sociologie, bon, en fait, qui était gauchiste, contestataire, protestataire, 68 art, tout ce que vous voulez, et donc totalement néfaste à la reproduction de cette élite, et d'autant plus que elle avait aspiré, j'allais dire, une toute petite partie, parce qu'ils ne sont pas très nombreux, hein, d'enfants, d'employés et d'ouvriers dans ces grandes écoles. Et donc, moi, je pense qu'on peut difficilement séparer les normes économiques dont vient de parler, qui existent évidemment, dont vient de parler François, de ces normes sociales qui ne sont pas nécessairement intériorisées de la même façon par tous les ingénieurs. Je plaiderai certainement pour l'hétérogénéité du groupe des ingénieurs, mais qui font partie quand même très fortement du modèle français des grandes écoles, de la sélection, etc. Et que la sélection sociale ayant été très vite par Napoléon, précisément dans sa mission à Pierre-Simon de Laplace, de faire de l'école polytechnique une école doublement d'élite scientifique avec la sélection mathématicienne et d'élite sociale avec un concours extrêmement difficile qui demandait donc à faire des préparations, et ce lien des deux, élite scientifique, élite sociale, j'ai dit, est encore aujourd'hui quelque chose de prégnant. Je ne partage pas complètement les thèses de Bourdieu dans la noblesse d'État, mais il faut bien reconnaître que les enquêtes statistiques sur lesquelles il s'appuie sont absolument incontestables, et que cette reproduction de l'élitisme est quelque chose qui a particulièrement concerné en France le corps des ingénieurs et en particulier celui des polytechniciens.
Alors, j'ai deux interventions ici, et puis après je vous redonne à l'autre bout de la table.
Je vais tirer peut-être par un autre bout et commencer par la question que vous avez posée, la question générale, et qui interpelle le colloque dans son ensemble. Et évidemment, j'applique ma démarche d'historienne. La question était de savoir si oui ou non les questions qui ont été posées aujourd'hui par rapport à l'actualité brûlante que les jeunes gens maintenant ils s'interrogent sur le devenir de leur profession, leur identité ou leurs identités plurielles. Évidemment, pour moi, c'est une évidence banale que toutes ces questions ont été posées et à plusieurs reprises et à l'infini, à droite et à gauche, à tour et à travers, à l'envers et comme vous voulez, à travers l'histoire, et pour ne prendre que la période moderne, encore une fois, je ne parle pas de la Renaissance, où déjà, et même le Moyen-Âge, où déjà ces questions ont été posées, à cette époque-là, je pense que si on avait le langage moderne, on aurait eu droit tout à fait de se demander, est-ce qu'il y a l'ingénieur ou les ingénieurs? C'est-à-dire, il y a la profession commence à se définir, à s'identifier dans la pluralité des applications, dans la pluralité des façons d'agir, de façons de penser. Il y avait, par exemple, la tradition était de croire que l'ingénieur, à l'époque médiévale, c'était surtout le faiseur d'engins et l'ingénieur militaire, alors que pas du tout. J'ai découvert qu'il y avait, par exemple, déjà la notion de l'ingénieur de la municipalité. à la Bologne du 15e siècle. C'est juste pour vous donner un exemple. Donc, pour moi, la question ingénieur des ingénieurs est une question qui, c'est-à-dire, c'est une imbrication des deux, parce que je ne voudrais pas dissocier. Il n'y a pas de contradiction, à mon avis. Il faut, évidemment, commencer par définir qu'est-ce que c'est un ingénieur. On peut faire un colloque ou plusieurs colloques là-dessus. Mais pour aller très vite, c'est quand même il y a quelque chose de spécifique qui définit cette activité particulière par rapport aux autres. C'est, en premier lieu, c'est l'intelligence technique. C'est la définition donnée par Alain Vérin dans son livre « La gloire des ingénieurs » et que je partage pleinement. On peut la définir différemment, mais ça revient au même. C'est-à-dire, c'est un homme qui agit, qui intervient dans le monde artificiel créé par l'homme, qui intervient, qui crée ce monde, qui crée le savoir sur ce monde et qui perpétue le savoir, donc la formation, évidemment, qui transmet. Qui le laisse par écrit, qui le laisse par enseignement, etc. Donc, tout ça, on le retrouve quelle que soit la manifestation qu'on peut voir aujourd'hui, énormément diversifiée, évidemment, avec tout ce que la technologie représente. Donc, un ingénieur, ce sont des ingénieurs, ou l'ingénieur dans tous ses états. Alors, je pense qu'on a pu constater, justement, si on essaie de voir la dimension historique, ça revient pour moi, en tant qu'historienne, ça revient à ça. Donc, parce qu'il y a quand même un dénominateur commun qui fait que les gens s'identifient quand même avec ce métier. Au moment où ils commencent à dire non, c'est pas ça, alors effectivement, on rentre dans une autre logique et il y a quelque chose, une autre identité professionnelle qui émerge, qui est différente. Donc, ça, c'est une question à envisager. Alors, maintenant, ingénieur citoyen aussi, je retrouve un terme différent, mais par exemple, dans le cas que j'ai étudié profondément, le cas de la Russie, et je pense que le cas de la France peut aussi être considéré de ce point de vue, l'ingénieur au XVIIIe siècle, et c'est le moment où son identité se forge autour de la scientificité, autour de l'émergence d'un corpus spécifique de sciences propres à l'ingénieur, c'est l'ingénieur du corps, l'ingénieur d'État, l'ingénieur au service de l'État, qui s'identifie, et c'est une formation, à travers la formation, parce qu'on crée aussi des écoles spécialisées, en Russie, c'est absolument évident, l'ingénieur, c'est quelqu'un qui sert l'État, c'est le serviteur de l'État. Donc, il est, d'une certaine façon, citoyen, parce qu'il pense l'État. Ensuite, il y a évidemment toutes sortes d'évolutions. Alors, perfectionnement pertinent, c'est encore une question très drôle, parce que à travers l'histoire, on voit beaucoup d'exemples où la perfection, la solution la plus idéale, la plus parfaite, les meilleurs calculs, n'est pas adaptable à des conditions concrètes, où des techniques traditionnelles sont beaucoup plus efficaces et où la technique performante et magnifique échoue. Donc, on ne peut pas, évidemment, dissocier ce monde avec la science, donc l'autorité de la science qui est indispensable pour forger l'identité de la profession et avoir un corpus de savoir à transmettre. Elle n'est pas l'autorité absolue, parce que l'ingénieur, c'est le monde du réel. C'est un homme qui intervient dans la réalité du monde complexe. Donc, cadre de pensée, à mon avis, oui. Parce que si on n'a pas le cadre de pensée, on ne peut pas sortir de ce cadre. Donc, il faut au moins déjà l'avoir, et c'est la formation qui le donne. C'est une culture technique qui est élaborée à travers des siècles, qui est transmise, qui évolue, qui s'élabore, mais qui fait que le représentant de ce métier pense de telle façon. Alors, ce qu'on apprend aussi, justement pour ne pas tomber dans le piège de cette scientificité, c'est aussi une façon de... C'est la formation. C'est peut-être là qu'il faut mieux agencer les choses, qu'il faut que les choses évoluent. Bon, c'est juste quelques réflexions spontanées.
Donc, si c'est bon pour vous, je vouliez répondre. Bah, je vous passe du coup. Allez-y.
Simplement rajouter un tout petit mot par rapport à ce qu'a dit Claude Dubarc, pour être sûr de ne pas mettre mal comprendre, quand je parle de normes économiques, il est clair que ce sont des normes sociales. Je voulais simplement donner un exemple, puisqu'on est avec des ingénieurs agronomes. Donc, dans un ouvrage d'un ingénieur agronome du 19e, qui s'appelle Gustave Heuzé, du lait et de ses emplois en Bretagne. Donc, il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce qu'il faut élever le veau sous la mer, faire du lait, vendre du beurre, du fromage. Bon. Et il fait des calculs, il fait des relevés, il fait des calculs, il ramène tout en équivalent fumier. Bon, c'est un ingénieur. Et puis, alors, il se pose, dans tous ses calculs, à aucun moment n'intervient le coût du travail. Sauf au moment où il est question de la fromagerie. Parce que pour la fromagerie, il faut embaucher un fromager à gage. Alors que pour le reste, eh bien, le travail agricole dans la société agricole du 19e, c'est pas une grandeur rare, on le calcule pas, on ne met pas au dénominateur. Voilà. C'est simplement ça que je voulais dire. Donc, regardez comment l'ingénieur calcule, quelles sont les normes de valeur qu'il utilise, c'est bien évidemment faire surgir les normes sociales qui sont derrière, par exemple, le statut du travail agricole.
Je ne sais pas si vous vouliez, tout à l'heure, vous vouliez peut-être ajouter un petit mot.
Non, simplement pour dire que le monde polytechnicien est un monde particulier. D'abord, l'école polytechnique n'a délivré un diplôme d'ingénieur qu'en 1937. Et donc, un petit moment quand même après sa création. Et ensuite, que l'école polytechnique donne toujours une formation de base. Et c'est simplement dans le cadre de certaines écoles d'application que, à l'issue de cette formation complémentaire, on rentrait dans un corps d'ingénieurs et on n'entrait pas du reste comme ingénieur, mais comme sous-ingénieur, puis on devenait ingénieur ordinaire, puis ingénieur principal, etc. Et quand on était suffisamment monté en grade, on ne s'appelait plus ingénieur du reste. Mais voilà, on devenait directeur, inspecteur, etc. Enfin bref, on aboutissait à des grades autrement plus importants. Non, tout le monde ne montait pas. Il y en a qui restaient au bas de l'échelle. Bon, il y a comme ça un certain nombre de gens du corps des ponts et des chaussées qui sont restés tout au bas et qui ont continué à travailler dans la vicinalité pendant toute leur activité professionnelle. Donc voilà. Et par ailleurs, la plupart des polytechniciens au 19e siècle ne deviennent pas ingénieurs parce qu'ils rentrent dans l'armée. Voilà. L'essentiel de la formation des polytechniciens au 19e siècle et encore au début du 20e, c'est pour l'armée. Voilà. Alors ça fait des généraux, des colonels, enfin tout ça, bon, des bons et des mauvais, mais ça ne fait pas forcément des ingénieurs. Les ingénieurs qui se construisent au 19e siècle sont des gens extraordinairement hétérogènes. La plupart des écoles que nous connaissons aujourd'hui, qui sont des écoles anciennes, ne forment pas au départ des ingénieurs. Par exemple, les Gazar, qui sont à l'heure actuelle des ingénieurs tout à fait distingués, d'une des meilleures principales écoles d'ingénieurs françaises, eh bien, les Gazar, qui ont été créés sous Napoléon Ier, formaient des petits artisans et même pas des métallurgistes. On formait des sabotiers au départ. Voilà. Et c'est seulement à partir des années 1830 qu'on a commencé à former des ouvriers métallurgistes. Et ensuite, il s'agissait qu'ils deviennent des contremaîtres. Un certain nombre d'entre eux s'installaient dans profession libérale ou comme petit patron, et ils se désignaient à ce moment-là comme ingénieurs civils. Mais ils n'avaient pas un titre d'ingénieur, ils n'avaient pas un diplôme d'ingénieur. Et du reste, durant tout le 19e siècle, en gros, on peut dire que la moitié des gens qui s'appellent ingénieurs n'ont aucun diplôme. Donc c'est une population qui est extrêmement hétérogène, extrêmement complexe. Ce qui explique ensuite, quand les écoles se créent, qu'il y ait comme ça des espèces de patriotisme d'école et qu'on se fonde autour de ce qu'on connaît, c'est-à-dire les collègues qui sont comme nous. Voilà. Un deuxième point que je voudrais dire à propos des ingénieurs, c'est qu'à partir du moment où on voit apparaître une pensée d'ingénieur qui apparaît avec la publication d'un certain nombre de revues, comme par exemple la revue du génie civil, qui naît dans l'année 1830, eh bien on voit apparaître en effet une écriture, une pensée d'ingénieur à ce moment-là, qui rassemble des gens qui ne sont pas tous des ingénieurs, mais qui lisent ça, que ça intéresse. Et ce que l'on peut constater, c'est un remarquable optimisme des ingénieurs. Et cet optimisme, il est
que ce que nous faisons, nous, ingénieurs, c'est pour le bien de la population. Notre travail est un travail positif. La science et la technique qui l'accompagne sont destinées à faire le bonheur des hommes. C'est ça ce qu'on peut appeler l'optimisme des ingénieurs. Et nous allons le manifester. Voyez, regardez les ponts que nous construisons. Eh bien, avant, il fallait faire des détours, et puis on traversait une rivière, et quelquefois, quand la crue était montée, eh bien, on ne pouvait pas traverser. Voilà. Et les marchandises n'arrivaient pas. Grâce à nous, eh bien, voilà, nous avons relié les hommes entre eux. Grâce à nous, eh bien, voilà, les bateaux arrivent dans un port, et ils sont protégés. Grâce à nous, etc., etc. Et un des plus grands espoirs de l'ingénieur, ça a été évidemment la mise en place de l'électricité distribuée à tout le monde. Et ça, c'était évidemment le confort. Et pour les ingénieurs, le confort, c'est la modernité. Et la modernité, c'est la technique. Et la technique, c'est nous, les ingénieurs. Voilà. Donc, il y a effectivement un optimisme et en même temps une volonté générale de dire... Eh bien, ce que nous faisons, certes, nous sommes contents de le faire, et puis bon, nous avons tous les mérites pour le faire, parce que nous travaillons beaucoup, mais au fond, ça n'est pas seulement pour nous, c'est pour l'ensemble de la population. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de dérive, d'idéologie derrière, bon, mais je crois qu'une pensée générale qui unit, me semble-t-il, les ingénieurs dans toute leur hétérogénéité et toute leur diversité, c'est cette idée que, grâce à eux, le monde allait mieux. Et un des gros problèmes qui s'est posé aux ingénieurs, et dont rend compte précisément l'enquête de Christelle qu'elle nous a présentée tout à l'heure, c'est de s'apercevoir que la technique ne donnait pas forcément du bonheur, mais pouvait créer des problèmes extrêmement graves. Et ça, ça a été une crise terrible pour les ingénieurs, à partir de la Seconde Guerre mondiale. On a dit que le projet Manhattan, c'était un projet de physiciens. Certes, la bombe atomique, oui, a été fondée. Mais qui c'est qui a fabriqué la bombe atomique? Ce sont les ingénieurs de Dupont de Nemours, ce sont les chimistes qui ont su fabriquer cette bombe. Et évidemment, ils ont créé aussi le nylon et les bas nylons. C'est très très bien, c'est tout à fait sympathique. Mais en même temps... Eh bien, ils ont créé et les bas nylons et la bombe atomique. Et donc, il y a une prise de conscience que ils sont scindés en deux dans leur être même, à la fois par ce qu'ils peuvent apporter de positif et en même temps des risques que la technique peut amener.
Oui, je m'amusais à faire l'avocat du diable dans cette assemblée. Je suis d'accord, tout à fait d'accord, ce que vient de dire André Gollon sur le fait que les ingénieurs ont une haute conscience d'apporter du bien au peuple, de faire le bien du peuple, d'apporter le progrès technique, etc. Le problème, c'est qu'est-ce qui se cache derrière la représentation du peuple? C'est-à-dire, quel est le modèle de l'homme moyen, on dirait? Si on prenait les débats de la fin du 19e siècle autour de cette notion. Et il faut quand même bien reconnaître que quand on analyse les textes des ingénieurs, disons oui, à ce moment, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, on se rend compte que la représentation du peuple, elle est la représentation d'individus passifs, j'allais dire sériels, comme dirait Sartre, etc. C'est-à-dire que tout ce qui concerne le mouvement ouvrier, tout ce qui concerne les syndicats, tout ce qui concerne l'action, y compris d'ailleurs catholique, hein, je veux dire, à cette époque, après, bon, tout ça est quelque chose qui n'entre pas dans la vie. C'est-à-dire, en termes économiques, l'hétérogénéité du salariat, donc la différenciation des travaux, des forces de travail, etc., ou en termes sociaux, je veux dire, l'organisation des classes sociales et l'action collective des classes sociales est quelque chose que les ingénieurs n'intègrent pas dans leur cadre de pensée, parce que le peuple, eh bien, c'est nécessairement un ensemble d'individus qui demandent à être heureux, être heureux, et pour ça, à avoir le chauffage, l'électricité, la voiture, point final, et que quand on leur a donné tout le confort, eh bien, ils seront heureux et il n'y aura plus de problème.
Tout à fait. Et vous ne vouliez pas rajouter un dernier mot? Parce que moi, je me posais quand même une question sur sur la question de la participation des femmes au métier d'ingénieur. Est-ce que ça vient impacter, je pensais le dernier intervenant, est-ce que la participation des femmes au métier d'ingénieur, est-ce que potentiellement aussi ça amène un autre cadre de pensée dans ce contexte-là ou pas? C'est peut-être un peu compliqué comme question. Je ne sais pas. Ou peut-être,
ce que
peut-être
vous voulez dire, c'est que le fait que les femmes rentrent dans ce métier, ça peut changer éventuellement la
façon. Est-ce qu'elles amènent un cadre de pensée différent ou une perspective différente?
Je ne crois vraiment pas. Je crois qu'elles sont. Que celles qui y entrent. D'abord, elles restent une minorité, c'est ce qu'on disait. Ensuite, elles sont formées. Elles viennent pour les mêmes raisons que les garçons. Elles viennent des mêmes milieux sociaux. En fait, il n'y a à peu près aucune différence dans les trajectoires d'origine des jeunes femmes et des jeunes garçons.
Sauf le retard.
Sauf le retard, c'est venu plus tard. Et par ailleurs, quand on l'a vu d'ailleurs dans l'enquête sur les valeurs, c'est pas un critère, le sexe, pas le genre d'ailleurs, je lutte contre cet usage du mot genre quand il s'agit de la variable sexe. Le sexe n'a pas d'influence sur la façon dont elles répondent. Donc je crois pas beaucoup à ça. Hein. En revanche, je pense que de fait, par leur socialisation, par les attentes genrées, là pour le coup, qu'on impute aux femmes et à leur façon de raisonner, etc., c'est pas un hasard si elles vont plus volontiers vers l'agronomie ou vers la chimie, toute profession, et moi j'ai travaillé aussi sur les normaliennes scientifiques, c'est seulement la biologie où on a une certaine mixité, il y a quasiment pas de femmes en maths et en physique, enfin vraiment 10%, quoi. Et aujourd'hui, en 2010, hein, je parle pas de 19e siècle. Alors, et quand on essaye de comprendre pourquoi, et quand on leur pose la question, c'est qu'elles disent c'est trop abstrait, c'est pas justement lié à l'utilité sociale, le développement des gens, enfin elles ont un plus grand souci, et en particulier elles citent très souvent ces histoires de développement durable, d'écologie, de soucis des soucis des autres au sens très large du terme. Et alors bien sûr la médecine, parce qu'il y a des figures longtemps, mais même aujourd'hui, de soucis dans les techniques et dans les conséquences des techniques. Bon, j'étais étonnée quand même donc, que chez les ingénieurs, on ne voit pas de différence, mais parce qu'elles ont été socialisées, qu'elles ont intériorisé les mêmes raisonnements. Mais en revanche, on voit des différences selon les domaines d'études. Je pense que ce n'est pas un hasard. Nous avons ici deux élèves d'école d'agronomie. Je pense que c'est des études d'ingénieurs où la formation est plus large sur le plan scientifique, tandis que la plupart des études d'ingénieurs sont très très concentrées sur maths, physique, voilà. Et il y a beaucoup moins d'autres savoirs. Alors j'en profite, puis je mets deux secondes à propos de l'intervention sur les humanités à l'INSA, parce que les centres des humanités, tout ce discours sur les humanités, il y a vraiment loin des discours aux pratiques. Parce que pour avoir participé à des colloques sur les femmes à l'INSA et sur qu'est-ce qu'on peut faire pour promouvoir les femmes dans ces études, etc. Et avec des professeurs de ce centre des humanités, ce que je trouve complètement flagrant, c'est que c'est complètement secondaire ce centre des humanités. Déjà, dans l'espace de l'école, c'est un tout petit truc minable, avec des locaux minables, complètement obscurs, on voit pas. Ça, c'est déjà totalement, on sait partout, le locaux, les bureaux, c'est complètement emblématique de ce qu'on attribue comme valeur, la valeur économique, n'est-ce pas? Et ensuite, les profs qui sont là-dedans, c'est pareil, ils sont la dernière roue de la charrette, on leur demande pas leur... C'est les profs d'anglais avec qui je fréquente... Bon, donc du coup, moi, je trouve que c'est entre ce beau discours sur l'ingénieur humaniste et la pratique, où on voit que les gens qui enseignent les sciences sociales ou les langues ou le reste, dans ces écoles-là, sont complètement marginalisés, sont moins bien payés, sont moins bien vus par leurs collègues, je trouve qu'on en est loin et que la pensée des ingénieurs, même aujourd'hui, elle... Elle évolue pas tant que ça, quoi.
Oui, ben justement, c'est sur l'actualisation de ce discours humaniste que je voulais rebondir, enfin vous interroger, parce que tout ce modèle dont on a parlé abondamment durant ces deux jours, tend à s'effacer en quelque sorte. Enfin, c'est la question que je vous pose aujourd'hui, liée peut-être. C'est encore une hypothèse que je pose sous forme d'interrogation, mais lié peut-être à un moindre rôle des technologies dans le processus productif, au manque d'innovation technologique, je ne sais pas. Toujours est-il que c'est assez frappant de voir par contraste comment le secteur informatique et Internet non seulement pose des ingénieurs au premier rang, y compris dirigeants de sociétés mondialement connues, dont un est décédé dernièrement, mais aussi un modèle attractif pour les jeunes. C'est-à-dire avec un état d'esprit un peu anard sur les bords et avec y compris des traductions politiques dans les partis politiques pirates. Hein. Donc ça, là, je vois effectivement quelque chose comme un modèle social pour les ingénieurs qui s'interrogent sur leur rôle social, etc. Et comme par hasard, c'est attaché à une nouvelle technologie qui est assez hégémonique dans le monde économique, puisque les premiers milliardaires sont issus de cette branche-là. Bon, voilà. En tout cas, quid du rôle humaniste aujourd'hui des ingénieurs? Est-ce que c'est pas un peu vieille France de parler de ce qui, enfin comment dire, de, en tout cas, comment on actualise les réflexions historiques sur le rôle de l'ingénieur aujourd'hui.
Je veux bien dire un mot sur la question. Mon sentiment, c'est que l'une des grandes transformations dans le cadre de pensée, mais aussi, je veux dire, dans la représentation de leur pouvoir et de leur position dans la société, mais aussi dans l'entreprise, là, des ingénieurs, date, de mon point de vue, des missions de productivité du plan Marshall et de la découverte du modèle qui va devenir une norme du management à l'américaine de la grande entreprise. Et dès cette période-là, des années 50, début des années 60, on voit se développer dans la sociology of the profession, qui est essentiellement américaine, on voit se développer l'idée qu'il y a deux sortes d'ingénieurs, deux sortes de dirigeants aussi, mais d'ingénieurs. Il y a les ingénieurs universalistes et les ingénieurs localistes, pour prendre les terminologies de l'époque. C'est-à-dire, les localistes, c'est quoi? C'est ceux qui se plient, j'allais dire, à l'autorité managériale ou à l'ensemble de la norme du management et qui sont essentiellement au service de la rentabilité de leur entreprise, de la réussite de leur entreprise et évidemment du modèle qui va avec. Et les universalistes sont ceux qui continue à se penser samouraï de la raison, pour prendre un beau terme de l'époque ou d'un peu après, et comme étant transversal par rapport aux entreprises. Si l'entreprise ne me donne pas les conditions de travail techniques, de réalisation, je m'en vais dans une autre entreprise, comme on disait, je suis pas marié avec l'entreprise, et ce que je veux, c'est essentiellement le beau produit, hein, pour reprendre l'informatique, on voit l'idéologie de l'informaticien qui arrive à sortir un logiciel qui est peut-être pas rentable économiquement, mais qui est beau scientifiquement, techniquement, mathématiquement. Et on voit qu'il y a un conflit entre les deux. Et il me semble que dans la jeune génération, celle dont tu parles en parlant des informaticiens qui bidouillent et qui se mettent à leur compte et qui font des logiciels, des services, etc. Bon, et qui ne sont pas inféodés, j'allais dire, au management. Donc, le modèle Silicon Valley, quoi, pour prendre l'exemple, sont effectivement les héritiers de ceux qui refusent la norme managériale des grosses entreprises américaines diffusées par les missions de productivité et du plan Marshall des années 45, 62, 63, quoi.
Je voulais simplement rajouter un petit élément un peu en poil à gratter par rapport au petit débat qui a commencé à s'instaurer sur la question de la place des humanités dans la formation des ingénieurs. D'une certaine manière, il y a pire que les ingénieurs qui ignorent totalement les humanités. Il y a ceux qui les réinventent de toutes pièces avec leurs gros sabots. Et ça, c'est quelque chose qui revient. Hein, c'est bien pire. Et ça, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente, c'est-à-dire avec l'idée, bon, c'est très 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 simple, les sciences de l'homme, on va vous faire ça en trois coups de cuillère à peau, avec des cadres épistémologiques qui ont été forgés sur d'autres choses. Et ça, ça revient. Bon, alors on avait parmi ce qui a été évoqué hier, le groupe X-Crise, enfin, on en trouvera des illustrations de façon absolument récurrente, et ça revient de façon récurrente. Et à mon avis, c'est plutôt là qu'on voit se jouer une forme d'impérialisme de la pensée d'ingénieur dans le mépris des autres, d'autres cultures. Et ça, c'est pas sans lien, effectivement, avec la discussion qu'on pourra avoir sur la question de la formation.
Alors, justement, si ça vous va, avant de passer à la formation qui va être notre gros temps, est-ce qu'on passe un petit peu au questionnement? Alors c'est pour faire un entre-deux en fait, parce qu'on va vraiment prendre le temps sur la formation, mais justement de passer un peu par la case de l'ingénieur ou des ingénieurs dans leurs responsabilités en tant que professionnels quand ils y sont, avant de revenir à la case formation juste après, de voir un peu ce que vous avez envie de nous lancer comme interrogation pour ce petit temps-là.
Donc en effet, on s'interroge sur la responsabilité sociale et environnementale des ingénieurs une fois qu'ils sont sortis de leur école. Et donc pour rebondir justement sur ce que vous disiez tout à l'heure sur l'optimisme des ingénieurs qui sont censés garantir le bien-être du peuple et leur apporter des choses utiles et qui garantissent leur bonheur, on s'est demandé justement si l'ingénieur a l'impression de répondre à une demande sociale, Mais il y a plein d'exemples qu'on pourrait donner qui montrent que finalement, il a été générateur de besoins et de consommation, donc qui ont pu après justement avoir des conséquences sur l'environnement et donc qui n'étaient pas forcément positives. Et aussi envers ce peuple, on se demandait si l'ingénieur n'avait pas le devoir de vulgariser son savoir et notamment du coup avoir un rôle dans tous les débats de société, notamment sur les OGM, le nucléaire, comme on en parlait tout à l'heure sur l'intervention sur l'environnement et les ingénieurs. Donc voilà, déjà je vous soumets ces deux questions-là et puis on verra après.
Alors, bon, c'est très facile de taper sur les ingénieurs. Quand ils sont optimistes, de toute façon, ils pensent à un peuple abattardi et qui de toute façon se restera passif devant le bonheur que lui apportera le technicien expert. Sinon, c'est un inconscient. Au pire, c'est un cynique. Bon. Alors, maintenant, si on essaie de travailler un petit peu sur des questions un peu plus concrètes et qu'on voit ce qu'ils ont fait, certes, c'est pas parfait, mais enfin, il y a quelques éléments qui sont malgré tout intéressants. Dans les années 1820, les ingénieurs militaires qui sont à Metz considèrent qu'ils doivent mettre leur savoir à la portée des populations industrieuses. Alors, ils créent des cours d'ingénieurs pour ouvriers qui ont un succès considérable et dont le modèle va se répandre à travers toute la France. Un peu plus tard, un autre ingénieur qui s'appelle Charles Dupin, professeur au Conservatoire des Arts et Métiers. Le Conservatoire des Arts et Métiers est destiné précisément aux industriels, aux artisans, aux ouvriers qui veulent se former. C'est des formations qui ont lieu le soir, qui sont gratuites et qui ont lieu de novembre à mai à raison de deux cours d'une heure et demie par semaine. Et Charles Dupin est chargé des cours de mécanique et de géométrie et c'est évidemment une discipline extrêmement importante qui est en train de se développer à ce moment-là. Et il pense que même s'il a un amphi de 400 ou 500 auditeurs deux fois par semaine, c'est pas suffisant. Et comme c'est un ingénieur et qu'il a l'oreille du gouvernement, eh bien il demande au préfet, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, de faire diffuser ses cours auprès des ingénieurs des mines et des ponts qui sont en fonction dans les provinces. Et il vérifie que, en effet, ces cours sont bien diffusés et donnés aux industriels, aux commerçants, aux artisans, aux ouvriers qui veulent se former à la mécanique et à la géométrie. Un peu plus tard va se créer l'association polytechnique qui est faite de polytechniciens et l'association philotechnique qui se sépare parce qu'ils ont des querelles d'égo, mais dans l'esprit elle-même et qui va aussi diffuser, considère que c'est un devoir de la part des ingénieurs de diffuser leur savoir et un savoir pratique de façon à ce que les gens qui y suivent puissent s'installer à leur compte. Parce que l'idée derrière ça, c'est que un ouvrier qui est formé doit pouvoir s'installer à son compte. Il y a un type qui s'appelle Bergerie, qui écrit un bouquin là-dessus, sur le fait qu'un ouvrier bien formé eh bien, s'installe à son compte, et en 15 ans, voilà, il devient un petit patron, etc. Et il y a cette idée-là, qui est évidemment une idée libérale. Bon, il ne faut pas demander aux ingénieurs d'être des socialistes, mais en tout cas, ils ont cette idée-là. Et c'est un courant qui n'est pas mince au XIXe siècle, c'est porté notamment par ce courant utopiste qu'on appelle les Saint-Simoniens, qui va considère que effectivement on va améliorer le sort des populations par une série de travaux industriels, et qui considère d'autre part qu'il y a une communauté industrielle. Alors là aussi, c'est une utopie sur laquelle on peut beaucoup gloser. Entre le patron, le contremaître et l'ouvrier qui forment une communauté industrielle qu'il appelle les abeilles, Saint-Simon appelle ça les abeilles, qu'il oppose aux frelons qui sont constitués, pour lui, des évêques, du clergé, des fonctionnaires, enfin toute une série de gens totalement inutiles et qui ne sont pas du tout productifs. Mais il oppose à ça une communauté industrielle qui, elle, a des intérêts communs. Et il pense que là-dedans, l'ingénieur, ce qu'il appelle aussi le chef de travaux industriel, joue un rôle particulier, dynamisant dans cette communauté industrielle. Nous sommes dans l'utopie, je suis bien d'accord, et rien, ça n'est pas parfait. Et je donne là l'image d'un ingénieur en or, admirable et tout, ce qui n'est pas le cas. Mais ça fait aussi partie de ces images que les ingénieurs véhiculent et qui constituent, en tout cas au 19e siècle, et encore sur une partie du 20e, un idéal. Il y a évidemment cette particularité des ingénieurs catholiques qui s'organisent à partir de la fin du 19e siècle et qui vont jouer un rôle assez important au cours du XXe siècle, notamment parce qu'ils ont été les premiers à tenter des expériences d'allocation familiale dans les entreprises et de réfléchir aux questions de retraite et d'organisation et de distribution des bénéfices. Il y a des débats très très importants au sein de l'Union sociale des ingénieurs catholiques sur la distribution des bénéfices par le patron auprès de ses ouvriers. Alors, il y a quelques expériences qui sont faites, et il y a surtout toute une réflexion théorique à ce propos qui est intéressante.
Je suis content qu'André Grelon ait évoqué mes deux amis Charles Dupin et Claude-Lucien Bergery, auxquels j'ai consacré de nombreux travaux, avec simplement, si je peux me permettre, une petite rectification historique, c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que Bergery fonde les cours industriels à Metz à l'imitation du projet du conservatoire de Charles Dupin. Non, si je voulais simplement revenir à ça, c'est que ce qui est très intéressant dans ce mouvement qui est lancé par Dupin et dont effectivement l'illustration la plus développée se joue à Metz entre 1825 et 1830, c'est qu'on voit bien là un projet social qui articule directement les dimensions techniques, économiques et politiques. Le schéma de Bergery, qui est celui de Dupin aussi, c'est de former des techniciens compétents qui seront en même temps des individus économiques rationnels et des citoyens responsables. Et donc là, on a effectivement une pensée libérale de l'ingénieur qui est assez différente des saint-simoniens d'ailleurs. Parce que, donc, par rapport à ce que tu disais, je veux dire, on a une interprétation libérale du rôle de l'ingénieur et puis on a une interprétation qui peut être socialiste au sens de la grande organisation, alors que le projet de Dupin et de Bergery, c'est effectivement l'industrialisation diffuse, qui correspond assez largement d'ailleurs au modèle de développement français du 19e siècle. Et on a tendance effectivement à oublier toute cette dimension de la pensée des ingénieurs au profit simplement de la figure de l'ingénieur lié à la grande industrie, lié au développement des chemins de fer, lié à des modèles comme celui du Creusot, etc., qui peut s'accompagner aussi d'une pensée sociale, mais pour dire que les débats sociaux qui sont ceux du 19e siècle, ils traversent la pensée d'ingénieur et c'est pas forcément un univers aussi homogène qu'on aurait tendance parfois à dire.
Pour tirer un enseignement de cet engagement social des ingénieurs à cette époque. Justement, pour revenir à cette question des débats comme les OGM, donc on a une présentation comme quoi les ingénieurs pensaient qu'il y avait moins besoin d'un débat public sur ce sujet. J'ai sans doute une conception un peu opposée. Et est-ce qu'on ne pourrait pas penser que pour avoir un débat citoyen et qui mène à une décision sur ce sujet, dans le cas particulier de la France et de l'Europe, il faudrait une meilleure information afin qu'on ne reste pas sur un partage de la société entre ceux qui comprennent, ceux qui saisissent les enjeux et ceux qui s'opposent systématiquement, donc les citoyens qui n'ont pas pu avoir la formation technique sur le sujet. Donc, est-ce que d'une quelconque manière, ce serait simplement des hypothèses, vous pourriez penser que l'ingénieur peut se positionner pour transmettre son savoir et permettre un débat public un peu plus transparent.